Collège public CADES, bonjour.
La leçon d'aujourd'hui, les doutes de Jean-Baptiste.
Matthieu 11. C'est la quatrième leçon. Nous avons fini sur la parabole du semeur. Et maintenant, nous passons sur une partie qui concerne Jean-Baptiste. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?»
Et c'est intéressant lorsqu'on veut méditer sur la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, méditer sur la parole de Dieu ? Méditer, il n'y a rien de mystique là-dedans. Méditer, ça veut simplement dire penser de manière profonde, pas simplement superficielle. Se poser des questions, essayer de comprendre, prendre du temps à part aussi. Et la question là, c'est verset 3, Jean-Baptiste qui dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et c'est intéressant de se poser la question, de dire pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a posé cette question ? Parce que si on connaît un petit peu Jean-Baptiste, ça commence à devenir un peu étonnant. Étonnant que Jean-Baptiste, qui est quand même celui qui a annoncé Christ, dise « Est-ce que tu es vraiment le Christ ?» Donc il est dit que Jean-Baptiste vivait avec les Esséniens. Alors ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais les Esséniens, c'est une secte du temps de Jésus. Secte, pas dans le sens péjoratif. Une secte qui avait des règles très très strictes. Et ces gens-là se retiraient dans le désert pour montrer qu'ils n'acceptaient aucun compromis avec le monde extérieur. Ils avaient des règles très strictes sur les vêtements, par exemple, la laine était interdite. Ils avaient interdiction de faire le moindre commerce, les moindres affaires, quoi que ce soit. En général, ils se retiraient, ils allaient dans les déserts. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Baptiste. Il les a très probablement rejoints. Ils n'avaient pas le droit, par exemple, de manger de viande, rien qui était cuit. Voilà, des règles vraiment strictes, j'ai lu ça, et il y avait même des exclusions de la secte. Toutes ces règles-là ont été retrouvées dans les rouleaux de Qumran. On est au courant de ça. Mais ce que faisaient ces gens-là en particulier, c'était qu'ils étudiaient la Torah. Ils passaient beaucoup de temps à chercher Dieu. Donc, ce que l'on sait, en tout cas ce que l'on suppose, c'est que Jean-Baptiste aussi a étudié la Torah, très probablement comme eux. Dans Luc 1, 80, on voit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, il s'agit de Jean-Baptiste, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. C'est tout ce temps de préparation que Jean-Baptiste a passé. Jean-Baptiste était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est une, a priori, des seules personnes dont il est dit, Luc 1, 15, qu'il allait être baptisé du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Directement dans le ventre de sa mère. C'est dire à quel point Dieu avait pour lui un plan précis, avait pour lui une direction précise au point de le préparer même avant sa naissance. Et c'était d'ailleurs très très important puisqu'il s'agissait quand même de préparer le monde entier à la réception de Christ. Donc c'est quand même pas rien comme œuvre à faire. Hein. Je vous propose de lire par exemple Luc au chapitre 3, versets 16 et 17. Jean-Baptiste dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son vent à la main. » Il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il est dit au 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Jean, quand il annonçait la bonne nouvelle, en fait, il annonçait l'arrivée imminente du Messie. Et remarquez qu'il dit bien, celui qui va venir, il est plus grand que moi. Il est tellement grand que même délier ses lacets, je ne peux même pas. Même être un esclave, être un serviteur, j'en suis même pas là, tellement ce Messie qui va venir est grand. Évangile de Jean, premier chapitre, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il, là aussi, s'il s'agit de Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Alors ça, si ce n'est pas des révélations. Donc, Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Il ne l'avait pas vu avant. À ce moment-là, il recevait quand même beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et parmi ces foules qui venaient à lui, il en voit un et il est dit que Dieu lui-même a parlé à Jean-Baptiste et l'a prévenu et lui a dit, tu verras l'Esprit s'arrêter et descendre et s'arrêter sur quelqu'un. Et c'est celui-là qui est le Messie. Donc, non seulement Jean entendait la voix de Dieu, mais il voyait également ce que Dieu voulait lui montrer. Et il a discerné parmi tous les gens qui étaient là qui était le Messie. Il a eu le courage de l'annoncer. Deux jours d'affilée, il l'a reconnu en disant « c'est lui, je confirme, c'est lui ». Donc là, ça ressemble quand même à une certitude. Hein. Et un peu plus tard, dans Jean au chapitre 3, à partir du moment où Jésus a commencé son ministère, il y a eu en fait avec les disciples de Jean une dispute. Ils ont essayé un petit peu de vérifier l'orgueil ou l'ego de Jean. Ils lui ont dit, ils vinrent trouver Jean, donc Jean 3, 26, ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, okay, c'était vraiment en public, hein, les autres, tout le monde était au courant, hein, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Du style, « Eh, oh, 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 nous on est là, on a quand même un super ministère et tout, tu parles de l'autre et maintenant ils vont tous à lui, on devient quoi nous ?» Et voici, tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est extraordinaire de voir les révélations que Jean-Baptiste a eues, au point même, prophétiquement, de comprendre, ou pas comprendre, en tout cas d'avoir cette image de l'époux et de l'épouse, qui est Christ et l'Église, alors que l'Église n'existait pas encore, et de dire, moi je suis l'ami de l'époux, je ne fais pas partie de l'Église, ce que Jésus lui-même a dit en parlant de Jean-Baptiste. Et il avait déjà eu cette révélation, Jean-Baptiste, et il le dit à ses disciples, il est non seulement conscient de qui est Christ, mais il n'est pas jaloux de lui. Il a dit, il faut que lui, il croisse, il faut que moi, je diminue. C'est comme ça que ça doit se passer. En fait, il faut bien se dire que Jean-Baptiste a vécu 30 ans de sa vie à se préparer. Jean-Baptiste, et on en parlait tout à l'heure pour le bon sol, on peut dire qu'il a porté du fruit, Jean-Baptiste. Hein, pour le bon sol, il a passé toute sa vie à se préparer. Il a fait une seule chose, il s'est concentré sur l'appel que Dieu avait mis sur sa vie depuis même la conception dans le ventre. Il s'est focalisé pendant 30 ans là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas marié, il ne s'est pas fiancé, il n'a pas tenu de travail rémunéré. Il a tout mis 100% de sa vie pour cette mission que Dieu lui avait confiée. Il s'est séparé de tout. Il était dans les lieux déserts, il était en train de lire la Torah, il était en train de chercher Dieu, il était en train de se préparer et remarquer qu'il entendait vraiment la voix de Dieu. Qu'il avait des révélations profondes, très profondes. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Il s'est donné à 100% pour le Messie. Et il est à l'origine d'un réveil pour une nation tout entière. Tout Israël est venu auprès de lui. Peut-être même que ça allait au-delà, parce que Matthieu 3 nous dit, Matthieu 3, 5, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alors ça, c'est un réveil aussi. Hein. Ça, c'est un réveil. Les gens étaient convaincus par Jean-Baptiste, et tous venaient se faire baptiser. Et ils venaient tellement tous se faire baptiser que même ceux qui n'avaient pas le cœur réellement à le faire, le faisait quand même, puisqu'il a repris les pharisiens en disant « Mais pourquoi vous venez vous faire baptiser, vous ? Je connais vos cœurs, quoi. Attendez, c'est pas parce que c'est le lieu où il faut être. Le lieu à la mode, c'est ici, dans le Jourdain. C'est pas pour ça que vous devez être là. Vous devez être là à cause de votre cœur, qui serait changé. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. » Donc, on a vu que Jean-Baptiste a vraiment proclamé 2 jours d'affilée que « Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus. » Donc là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que
Jean-Baptiste avait des certitudes sur Christ. Donc, maintenant, on en revient à Matthieu 11, 3. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste dit « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?»
Il est mis en prison, il est persécuté et il doute. Il est probable qu'il soit resté assez longtemps en prison, on ne sait pas exactement. En tout cas, jusqu'au moment où sa tête a été coupée. Mais il est possible qu'il soit resté plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, on ne sait pas. Ça dépend à quel moment il est allé en prison, puisqu'on sait que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. En tout cas, Proverbe 13, 12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade. » Un espoir différé rend le cœur malade. Lorsqu'on met beaucoup d'espoir en quelque chose, et lorsque ça ne vient pas, ou lorsque c'est décalé, ça fait mal dans le cœur. « Oh, mais j'attendais vraiment que cette personne vienne et me demande pardon et elle n'est pas venue. Ah, ça fait encore plus mal. » Ou ça peut être n'importe quoi. Hein. « J'attendais que telle chose se passe et j'attendais qu'on me dise merci et on ne m'a rien dit. Ah, ça fait mal au cœur. » C'est ce que dit ce proverbe.
« Un espoir différé rend le cœur malade. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Son espoir, c'était que Jésus soit le Messie. C'est le moins qu'on puisse dire. Il en avait des certitudes qui venaient de la part de Dieu.
Mais ce que ça nous enseigne, c'est que n'importe qui peut douter.
Parce que si Jean-Baptiste a douté, en ayant les révélations qu'il a eues, en voyant des signes aussi forts, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous, le Saint-Esprit avec vos yeux.
En tout cas, lui, il a vu le Saint-Esprit descendre, il a entendu Dieu d'une façon audible lui parler, et pas n'importe quoi. Lui révéler, lui c'est mon fils bien-aimé, lui c'est le Messie, c'est lui le Sauveur, celui qui est attendu depuis 4000 ans sur cette terre. Eh bien, malgré 30 ans de préparation, malgré ses signes, malgré ses certitudes qu'il avait, malgré les proclamations qu'il a faites, il s'est mis à douter. Donc ce que ça nous enseigne, c'est qu'il ne faut peut-être pas se voir trop beau. Si lui a été capable de douter, tout le monde est capable de douter. Et remarquez aussi qu'il est d'autant plus facile de douter lorsque la doctrine que l'on a n'est pas forcément bonne. Je m'explique. Pour Jean-Baptiste, ainsi que pour les disciples de Jésus, ce n'était pas de cette manière que le Messie devait venir. Tous pensaient que le Messie allait être finalement un soldat puissant qui allait, ou un général, qui allait balayer l'armée romaine, qui allait instaurer maintenant une théocratie en Israël et régner pour toujours. Il serait le roi d'Israël pour toujours. Et ça ne s'est pas produit comme ça. Ça s'est produit spirituellement, mais les Romains étaient encore là. Et finalement, ils devaient toujours payer autant d'impôts. Ils étaient encore... Finalement, tout ce qu'ils attendaient de la part du Messie, selon eux, ne se produisait pas. Ça instille le doute. Si la doctrine que l'on a n'est pas parfaitement juste, forcément on va douter parce que ça ne va pas se produire. Forcément. L'autre point qu'il faut voir aussi, et c'est ce que nous dit par exemple Hébreux 10, 24, je lis la version Sommer, qui nous dit « Veillons sur les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Il y a une force, une puissance à utiliser qui est le fait de veiller les uns sur les autres et de s'encourager mutuellement les uns les autres. Parce que chacun de nous, on est susceptible à un moment donné ou à un autre, et peut-être plusieurs fois, de douter. De se dire « Où j'en suis ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai beau avoir vu ci, j'ai beau avoir vu ça. Je croyais que Dieu m'avait parlé. Je ne sais pas si vous réalisez, mais sachant les révélations qu'avait eues Jean-Baptiste. Les doutes sont à la proportion des révélations. Les doutes sont à la proportion. Cet homme-là a amené tout Israël au Messie. Il se retrouve maintenant en prison et il se dit, est-ce que je n'ai pas amené tout Israël vers la mauvaise personne? Vous vous rendez compte de la responsabilité? Est-ce que je n'ai pas passé la totalité de ma vie que j'ai réservée pour le Messie à rien? Là, c'est toute sa vie entière qui est remise en question. Ce n'est pas juste je perds mon travail. Hein. C'est je suis venu sur cette terre, j'ai été loin du Saint-Esprit avant même de naître. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout ce que j'ai fait, c'est pour rien? Mais c'est énorme. Vous voyez la force, c'est un simple verset. Hein.
Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Mais c'est puissant. Si on commence à méditer là-dessus, on se dit, mais ce Jean-Baptiste...
Il y a des leçons à tirer là-dedans. Et peut-être que nous aussi, on peut arriver à des doutes, se dire, mais est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Est-ce que vraiment c'était ce que Dieu voulait? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je n'ai pas perdu 50 ans de ma vie à faire ci, à faire ça? Il faut être vigilant parce que les doutes détruisent. Là, Jean-Baptiste avait effectivement des décisions à prendre. Est-ce que tout ce que j'ai vécu était vrai ou pas? Et en fait, il ne savait plus du tout où il en était. On ne peut pas lui jeter la pierre parce qu'on ne ferait pas mieux. Il était en prison et tout ce qu'il attendait du Messie ne se réalisait pas. Peut-être que nous, des fois, ça nous arrive aussi dans notre vie. On s'attend à Dieu, on croit en lui, on a semé des bonnes choses dans nos cœurs. Et puis les événements ne se passent pas tout à fait comme on aurait imaginé. Puis là, on doute. Est-ce que vraiment ça a marché? Matthieu 11, je relis à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, donc Jésus répond aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Là, je pense qu'il parlait clairement de Jean-Baptiste. Regardez le passage équivalent dans Luc au chapitre 7, qui va nous montrer quelque chose d'intéressant. Ce qui est bien avec les évangiles, c'est qu'on a les mêmes récits, bien souvent plusieurs fois. Ça permet de tirer des richesses supplémentaires. Luc 7, verset 20. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus cette version-là? Ça nous apporte que, à l'heure même, Jésus a fait des guérisons. Ça nous rapporte que les disciples sont venus. Nous venons de la part de Jean-Baptiste. Il y a une question importante. Est-ce que tu es vraiment le Messie? Jean veut le savoir. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus ne leur répond pas. Il se tourne, il va chercher des malades, il va faire voir des aveugles, il va guérir des sourds, il va même trouver des personnes mortes pour les ressusciter. Ce qu'il est dit, les morts ressuscitent. Donc je ne sais pas combien de temps ça a pris, peut-être que ça a pris plus d'une heure, peut-être même plus. En tout cas, il les a plantés là, et il a dit, voilà, je vais faire quelque chose. Une fois qu'il a fait ces choses, il est revenu les voir, puisque c'est bien ce qui est écrit là, hein. Il est dit, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Maintenant, vous l'avez vu, vous, de vos propres yeux. Les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., etc. Intéressant de voir que Jésus a commencé à ne pas répondre directement à la question. Et non seulement ça,
c'est que la question était quand même une question assez fermée. Est-ce que tu es, oui ou non, celui qu'on doit attendre?
Alors, tu réponds, grand A, oui, grand B, non. Et Jésus les renvoie avec la case C. Maintenant, vous avez vu les boiteux, les aveugles, les morts, tous ceux-là sont guéris, etc. Alors on revient dans Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 7. Comme il s'en allait, il s'agit de qui là ? Des disciples de Jean. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Alors, voyez l'image, voyez ce qui s'est passé. Jean-Baptiste est en prison, il doute, il envoie ses disciples. Les disciples arrivent, posent leurs questions, grand A, grand B, repartent avec le grand C. Et à ce moment-là, Jésus se met à parler à la foule au sujet de Jean. C'est-à-dire que ce qui est dit là, les disciples de Jean ne l'entendent pas. Les disciples de Jean sont renvoyés à Jean avec une réponse. Ce que va dire Jésus maintenant n'est pas pour Jean. Il est pour la foule. Il est pour nous. Mais ce n'est pas pour Jean. Voilà ce qu'il est dit. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, toutes les descriptions que Jésus va faire là sont des descriptions un petit peu humoristiques ou sarcastiques, en disant, vous savez bien que si vous êtes allé au désert, ce n'était pas juste pour faire un peu de tourisme. Hein ? Quand vous êtes allé voir Jean, il y avait plus qu'un roseau à voir. Hein ? Est-ce que vous êtes allé voir quoi ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Il était vêtu comment, Jean ? En poil de chameau. Je me suis laissé dire que ce qui sentait plus mauvais que le poil de chameau, c'était le poil de chameau mouillé. Et quand vous pensez que le ministère de Jean-Baptiste était de baptiser les gens dans l'eau, ça devait être agréable d'être dans son compagnie. Mais c'était quelqu'un qui avait une puissance. On n'allait pas le voir à cause de ses vêtements. Hein. On n'allait pas le voir parce qu'il avait une belle barbe bien taillée. On allait le voir parce que c'était lui. Hein. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Jésus là est en train vraiment d'affirmer qui est Jean-Baptiste. Mais vous vous rendez compte qu'il dit, vous êtes allé voir un prophète, oui, mais en fait il est encore plus qu'un prophète ce Jean-Baptiste. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est référence à Malachie, chapitre 3. Pourquoi il est plus grand qu'un prophète ? Parce qu'en fait, tous les prophètes ont annoncé que Christ allait venir. Lui, il a montré qu'il était Christ. Donc, il est plus grand. Les autres n'ont que amené la direction. Lui, il a dit « Stop, c'est ici ». Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ça, c'est cette petite phrase de fin. Nous le savons, correspond à Christ et l'Église, l'époux et l'épouse, qui avait déjà été révélé à Jean-Baptiste. Il le savait et il disait d'ailleurs qu'il s'en réjouissait. Donc il n'y a pas besoin de pleurer sur le sort de Jean-Baptiste. Il est heureux
d'être l'ami de l'époux
plutôt que l'épouse. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous avons une place supérieure à lui, puisque nous avons une intimité avec Christ qu'il n'a pas eue de par le moment où il est né. Mais il n'y a pas d'injustice en Dieu, c'est ce que je veux dire. Dieu n'est pas injuste d'avoir mis Jean-Baptiste le plus petit dans le royaume des cieux, puisqu'il a dit qu'il était heureux d'être l'ami de l'époux. Mais remarquez qu'il est dit, il n'y a pas de plus grand, de personne plus grande parmi ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire que Jésus est quand même en train de parler à la foule et de dire, vous savez, Jean-Baptiste, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que David, il est plus grand que Élisée, il est plus grand que Élie. Il est plus grand que Samuel, plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que tous ceux qui sont nés jusqu'à présent sur cette terre. Alors ça, si ce n'est pas de l'encouragement, ça. Et maintenant, imaginez-vous, vous êtes plutôt déprimé, vous en avez marre, c'est dur de servir le Seigneur, c'est pas facile, il y a des combats, il y a des persécutions, il y en a marre. Et puis là, vous avez quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui a une autorité et qui dit « Tu as beaucoup de valeur, tu as même plus de valeur que n'importe qui sur cette terre en ce moment. Ce que tu fais est bien, Dieu a voulu ça pour toi depuis toujours. » Et qui commence comme ça à donner des paroles encourageantes. Est-ce que vous croyez que ça ferait du bien ? Oh oui, ça ferait du bien, oui. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte? Et là, il s'agit de Jésus lui-même. Jésus qui prend toute la foule à témoin et qui dit, ce Jean-Baptiste, voyez jusqu'à quel point je l'honore. Voyez jusqu'à quel point je le considère. Alors maintenant, la question, c'est de se dire, eh oh, il y a un problème là dans l'histoire. Il y a un problème. Les disciples de Jean, ils sont partis là. Ils ne les ont pas entendus. Les encouragements pour Jean-Baptiste, ils ne les ont pas entendus. Non, c'est bien ce qui est écrit. Est-ce que Jésus s'est trompé? Heureusement, on pense que non, mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit simplement aux disciples qui arrivaient, « Oui, je suis le Messie, et laissez-moi vous dire, Jean-Baptiste qui est en train de déprimer, Dieu est fier de lui. Il est le plus grand. Il est le plus grand des prophètes. Allez lui dire ça, et ça ira beaucoup mieux pour lui. » Ce n'est pas du tout comme ça que Jésus a fait. Il a fait tout autrement. Et ça, c'est vraiment important. C'est important de comprendre pourquoi. Eh bien, pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Jean avait étudié la Torah. Jean connaissait les prophéties, en particulier celle d'Ésaïe. Quand il est dit, voici la voix qui arrive et qui aplanit le sentier, etc. Ça, c'est dans Ésaïe, il me semble. Et je vous propose de lire Ésaïe 35, versets 5 et 6. Il s'agit en fait de l'arrivée du Messie. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ce passage-là, Jean l'avait étudié. Jean le connaissait. Je suis persuadé que Jean s'était reconnu dans certaines des prophéties qui parlent de lui. Il avait cet appel. Ésaïe 29, versets 17 à 19. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Voilà une prophétie de l'arrivée du Messie. Ésaïe 61, 1 et 2. Et celle-ci, cette prophétie, c'est Jésus lui-même qui l'a donnée, de lui-même, dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Est-ce que ce qu'on a lu là, finalement, ne vous rappelle pas quelque chose? Qu'est-ce que Jésus a fait avec les disciples quand il a vu les disciples de Jean qui sont arrivés vers lui? Il n'a pas répondu à leurs questions directement. Il a réalisé devant eux les prophéties. Il a montré que les prophéties étaient vraies. Il a confirmé les prophéties. En fait, ce qui s'est passé et ce que Jésus a voulu faire, Jésus a voulu ramener Jean vers la parole plutôt que de donner un coup de pouce à son ego. Plutôt que de l'aider émotionnellement, il a voulu lui donner quelque chose de ferme et de solide. Jésus honorait tellement Jean-Baptiste, on l'a vu qu'il l'honorait, il l'honorait tellement qu'il n'a pas voulu lui donner un réconfort moral ni émotionnel qui ne dure que pour un temps. Ce qu'il a voulu faire, il a voulu semer en lui la parole. Il lui a rappelé les prophéties sur sa vie, le but même de son existence. Plutôt que de lui dire qu'il était merveilleux, il l'a ramené vers la parole qui justifiait sa propre existence, qui justifiait sa propre vie. Il a mis la parole au-dessus de l'émotion. D'ailleurs, si Jean-Baptiste avait été encouragé par ses émotions, quelle solidité il aurait eu lorsque le garde est venu avec le sabre pour lui couper la tête? Ça n'aurait pas tenu beaucoup. Mais sachant qui il était, sachant les prophéties, sachant maintenant, oui, que Jésus-Christ est le Messie, il a pu tenir ferme à ce moment-là. Parce que la parole est puissante. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. Ce ne sont même pas même pas les miracles. Regardez ce que dit Luc 16, verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire la parole est là. Ils ont la parole de Dieu. Alors, le riche n'est pas d'accord avec ça. Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Ce n'est pas le miracle qui fait croire. La foi ne vient pas du miracle. La foi vient de la parole de Dieu. Et c'est cette foi qui produit les miracles. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que si je voyais quelqu'un se lever d'une chaise roulante, j'aurais plus de foi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça, ça aurait été peut-être une émotion. Mais si c'est basé juste sur quelque chose que j'ai vu, ça ne dure pas. Ça ne reste pas. Ce n'est pas solide. Par contre, si je suis basé sur le fait que oui, Jésus sur la croix a porté nos meurtrissures, nos infirmités. Si je suis basé là-dessus, c'est quelque chose de solide, que je le vois ou non. La foi, c'est quelque chose de sûr qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais c'est quelque chose de sûr et de solide. C'est exactement ce que Jésus a voulu faire avec Jean-Baptiste. Il a voulu lui donner la meilleure réponse possible. La meilleure réponse possible, c'était de l'amener vers la parole, de l'amener vers les prophéties qui avaient été données, de l'amener vers ce que Dieu avait dit. Le doute, ce que ça nous montre, c'est que le doute est chassé par la parole. Qu'est-ce qui va faire lorsque l'on doute qu'on ne doute plus? Bien, c'est ce que la parole peut faire. Si effectivement, on reçoit la puissance qui est dans la parole, elle est capable de chasser le doute, parce qu'il y a une vérité. Douter, c'est croire une vérité qui ne va pas dans le bon sens. S'appuyer sur la parole, c'est croire la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Et à un moment donné, il y a un choix à faire. Oui, je crois que ce que dit la parole est vrai. Je crois que mes yeux ne sont pas fiables. Vous savez que vos yeux ne sont pas fiables, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il existe des illusions d'optique. Il existe des illusions de tous ordres, d'ailleurs. Et voyez que la plupart d'entre nous, on aurait certainement réagi comme ça. On se serait dit, j'aurais, à ce moment-là, dans les moments de doute, ce dont j'aurais eu le plus besoin, c'est un gros câlin. C'est que quelqu'un vienne me dire, écoute, ça va aller, ça va passer. Écoute, je comprends tout à fait ce par quoi tu passes, c'est difficile. Viens, on va pleurer un petit peu ensemble. Ça, c'est la manière naturelle de faire. Ce n'est pas de cette manière que Jésus a répondu. Jésus a estimé tellement Jean-Baptiste qu'il n'a pas voulu partir dans ce jeu-là. Il n'a pas mis le sentiment d'abord, il a mis la parole d'abord, parce qu'il a voulu lui donner ce qu'il y avait de plus solide. Le sentiment peut se faire avoir facilement. Ça vous est déjà arrivé de pleurer en voyant un film? Pourtant, tout est faux dans le film. Vous avez pleuré sur du mensonge. Vous avez pleuré en voyant des gens tristes, alors qu'en vrai, ils ne sont pas tristes du tout, ils sont en train de jouer un rôle. C'est un mensonge complet, et vous êtes fait avoir vous aussi complètement. Et moi aussi. Je lisais un livre, la deuxième fois que je le lisais aux enfants, j'ai dû m'arrêter parce que je pleurais trop et je n'arrivais pas à me raisonner. C'est une histoire qui n'est pas vraie, ces gens n'existent pas et je pleure, je ne suis pas content de ça. Ça, c'est lorsque nos sentiments sont forts, lorsqu'on met nos émotions et nos sentiments trop forts. Ça ne nous fait pas du bien. On se fait avoir comme ça lorsqu'on met nos sentiments en premier. Et Jésus n'a surtout pas du tout voulu encourager Jean-Baptiste là-dedans. Pas du tout. Il a voulu lui dire ce qui compte, c'est la parole. Et remarquez que même dans les milieux chrétiens, on fonctionne aussi comme ça. Imaginez qu'on vous dise, il y a 2 réunions maintenant qui vont se passer. Dans l'une, on va étudier la Bible. Et dans l'autre, on va voir des miracles. Vous allez à laquelle ? De manière générale, quasiment tout le monde dirait « Ce qui m'intéresse, c'est les miracles. Là, il va se passer quelque chose. Là, je vais pleurer, je vais sentir une onction. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Dieu est là-bas » Parce que Dieu n'est pas dans la parole. Il est la parole.
Est-ce que ce qui nous intéresse le plus, c'est de se baser sur ce qui va nous faire du bien un temps?
Ou est-ce que c'est ce qui va nous faire du bien éternellement?
Il est dit que la parole de Dieu, c'est un rocher. Christ est un rocher et Christ est la parole, donc la parole est un rocher. Ça vous est arrivé, vous, d'aller à des réunions et de sentir que c'était extraordinaire, et puis le lendemain ou deux jours après, finalement, on est un peu vide? Oh ben mince, j'ai besoin de revivre la même chose. Ah, il faut que je retrouve cet homme de Dieu parce que c'était extraordinaire avec lui. Est-ce qu'il a vraiment répondu au rôle qu'il aurait dû faire? Éphésiens 4 nous dit que le rôle des ministères, c'est d'édifier et amener jusqu'à la maturité de Christ, pas rendre dépendant du ministère. Alors, il y a des gens, et heureusement pour le corps de Christ, qui ont des dons particuliers. Et c'est très bon pour l'Église.
Mais ce qui n'est pas bon, c'est de dépendre trop d'eux. Leurs dons doivent servir à vous édifier et vous amener aussi haut qu'eux. Et vous-même, de tout ce que vous recevez, c'est aussi pour donner pour les autres et pas pour garder pour soi.
Mais pour ça, il faut quelque chose de solide. Si ça se base sur de l'émotionnel, c'est friable. Ça ne tient pas. Si ça se base sur la parole, c'est solide.
On va lire 2 Pierre. 2 Pierre 1, 16.
Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
Pierre est en train de recadrer les choses dans sa deuxième épître. Il est en train de dire, vous savez, tout ce que je vous annonce là, c'est pas quelque chose d'inventé. C'est quelque chose que j'ai vu avec mes propres yeux. J'y étais moi avec Jésus. Je l'ai vu. C'est pas inventé. On a vu sa majesté de nos propres yeux. Verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Ça fait référence à la transfiguration de Jésus dans Matthieu 17. Vous imaginez Pierre, je crois que c'est Jacques et Jean qui étaient avec lui, qui d'un coup voit toute la gloire de Dieu qui descend sur Jésus. Jésus transfiguré, son vêtement qui devient blanc, pas parce que le vêtement est blanc, mais parce que son corps transmet tellement de lumière que le vêtement devient émettant quasiment lui-même de la lumière. Et il voit ça, c'est quand même pas banal comme expérience, hein. Et il dit, on était là, nous on l'a vu et on a entendu cette voix. Ça rappelle un petit peu aussi l'expérience de Jean-Baptiste, qui était extraordinaire aussi. Donc Pierre, voilà la manière dont il écrit cette lettre. Mais regardez le verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. » Donc, il y a une phrase un peu longue qui veut dire, d'une manière très simple, nous avons vu avec nos yeux quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, parce que nous avons vu avec nos yeux cette chose extraordinaire, vous pouvez tenir la parole prophétique, et il parle là de l'Écriture, des prophéties dans les Écritures, donc il est en train de dire, vous pouvez être certain que la Bible est vraie. Nous, on a vu des choses, mais vous pouvez être non seulement certain, mais il dit, elle est d'autant plus certaine, la parole prophétique. C'est-à-dire, même nos yeux pourraient nous tromper. Mais la parole de Dieu, elle est ce qu'il y a de plus solide. La parole de Dieu est ce qu'il y a de plus solide. Vous devez tenir ça comme encore plus certain que ce que nous avons vu de nos propres yeux, alors qu'on était avec eux. Et quand Pierre parle là des prophéties de l'Écriture, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce temps-là, il n'y avait très probablement que l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte? Même dans l'Ancien Testament, il y a une puissance extraordinaire à découvrir, qui est expliquée par le Nouveau Testament. Et vous savez aussi, donc je ne vais pas le lire, vous savez aussi ce passage, j'en ai parlé hier, de Galates 1, 8, où Paul dit, l'évangile que j'ai reçu, s'il est décalé par quelqu'un, s'il est diminué par quelqu'un, je me fiche que ce soit un ange qui en parle. Je me fiche d'avoir une vision qui me dit que c'est l'inverse. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. C'est la même chose. Je ne me ferai pas troubler par qui que ce soit, que ce soit une vision, que ce soit un signe, que ce soit autre chose, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Il y a ce passage de Matthieu 8, également, que vous connaissez, qui parle du centenier. Vous savez, ce centenier, c'est cet homme romain qui est allé voir Jésus, qui a dit « Mon serviteur est malade ». Jésus dit « Pas de problème, je viens », ce qui en soi est déjà extraordinaire, puisque normalement les Juifs ne vont pas chez les Romains, ou chez les non-Juifs même. Mais Jésus montre déjà une ouverture extraordinaire en disant « Je viens ». Non, ne t'en donne pas la peine. Ne t'en donne pas la peine, tu dis une seule parole. Et pourquoi tu dis une seule parole? Parce que moi, je suis soumis à quelqu'un et j'ai quelqu'un sous mes ordres. J'ai compris ce que c'est que l'autorité. Et toi, je sais que tu es au-dessus de tout. Moi, quand je dis un mot, on m'obéit. Donc toi, quand tu vas dire un mot, on va t'obéir. Donc tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il est dit que Jésus était étonné, a été étonné du centurion. Je pense que le terme étonné est un peu faible. En fait, il a été estomaqué, on pourrait dire. Estomaqué, il a dit, oh, « J'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. » Il y a deux fois où Jésus a été estomaqué. La deuxième fois, c'est quand il a été étonné, estomaqué de l'incrédulité de ses disciples. Je crois que c'est dans Marc 6. Mais en tout cas, retenons juste ça. Jésus a dit vraiment, c'est extraordinaire, cet homme a énormément de foi. Il n'a pas eu besoin de voir quelque chose, il n'y a même pas eu besoin que je bouge, juste un mot et la chose se fait. Et Jésus est fier de cet homme et le donne en exemple. Vous voyez, cet homme, il a plus de foi que tous les gens d'Israël. Allez, on termine avec Jean 20. Jean 20, à partir du verset 24. Jésus est ressuscité et Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'était pas là.
Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !»
Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ce qui nous montre, d'ailleurs, entre parenthèses, que croire est un choix. Il a décidé qu'il croirait que s'il se passait ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Une fois de plus, s'il donne un ordre, c'est parce que c'est un choix. « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et là, c'est fort. Jésus, non seulement passe à travers les murs, mais Jésus avait parfaitement entendu ce que Thomas avait dit. Jésus est vraiment le Fils de Dieu.
Jésus connaissait toutes choses et agit avec Thomas pour ne pas le laisser dans son incrédulité. Ça, c'est beau aussi. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ça y est, Thomas est convaincu. Il n'est pas, on ne sait pas s'il a mis cette voix ou pas.
Moi, je pense qu'il n'en avait pas eu besoin. Ça devait être suffisamment un choc de le voir déjà. Mon Seigneur et mon Dieu. Heureusement que Jésus a dit « La paix soit avec vous. » Parce que peut-être que Thomas s'est dit « Ma dernière heure est arrivée. » Je ne sais pas. Hein. C'est bien d'essayer de s'imaginer comment ça se passait. Parce que des fois, on lit, ça reste juste des mots, ça ne prend pas vie. Mais ça doit être vivant, la parole de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus est en train de faire une équation et il dit « La parole est supérieure au monde physique, à ce que tu vois. » Pourquoi je dis que c'est une équation? Parce qu'en fait, il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu. » Parce que en fait, il est en train de dire « le meilleur des deux, c'est de croire. » Croire est supérieur à voir. Croire est supérieur à voir. Et croire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc j'en finis là. Pour conclusion de cette série, pour nous convaincre, et je crois que nous sommes convaincus, que la parole de Dieu, d'une part, est puissante, d'autre part, elle germe, elle pousse dans nos cœurs, et ensuite, elle est supérieure à tout ce que l'on peut voir ou ressentir. Pourquoi je dis ça? Parce que il arrivera et il arrive des moments où on ne ressent rien du tout. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire telle ou telle chose. Il y a des moments où on ne se sent pas spécialement aimé. Et c'est à ce moment-là qu'il faut choisir de croire, oui, Dieu m'aime, parce que Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Et se baser sur la parole de Dieu. Je ne me base pas sur le fait que je suis aimé parce que je sens que je suis aimé, mais parce que Dieu a dit qu'il m'aime. Je ne me base pas sur le fait que Dieu pourvoit mon besoin parce que mon compte bancaire est plein, mais parce qu'il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, dans Hébreux 13, et c'est un contexte lié à l'argent. Et il y en a plein. Et ainsi de suite. On peut appliquer ça à la guérison, on peut appliquer ça à tous les domaines, tout ce qui concerne le salut. Ce qui est important et ce qui est vrai, c'est ce qui est établi dans la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas forcément ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je ressens. Amen.